5. Cette fois, c'est Roland qui monopolisa la parole. Et bien qu'il eût moins à dire qu'Eddie, il lui fallut quand même une demi-heure, car il s'exprima avec beaucoup de précaution, se tournant de temps à autre vers Eddie lorsqu'il ne trouvait pas un mot ou une expression. Eddie avait déjà vu se côtoyer le tueur et le diplomate en Roland de Gilead, mais c'était la première fois qu'il voyait clairement le héros, le messager qui tenait à l'intégrité de sa mission. Dehors, l'orage refusait toujours d'éclater ou de passer son chemin. Le pistolero finit par se reculer dans sa chaise. Dans la lueur jaune des bougies, son visage paraissait à la fois très ancien et d'un charme étrange. En l'observant, Eddie se dit pour la première fois que le mal était peut-être plus grave que ce que Rosalita Munoz appelait l'arthrite sèche. Roland avait perdu du poids, et les cernes noires sous ses yeux lui donnaient un air malade. Il but d'une traite un verre entier de thé rouge, puis demanda «
Comprenez-vous ce que je vous dis ?»«
Pour sûr !»
« Pas un mot de plus !»
Vous l'intuitez clairement, si fait ?
Insista Roland.
Pas de questions ?
Je crois pas, non ?
Redites-le alors, nous vous écoutons.
John avait noirci deux pages de son écriture arrondie. À présent, il les parcourait consciencieusement, hochant la tête pour lui-même, une fois ou deux. Puis il grogna et replaça son carnet dans sa poche.
C'est peut-être un pecno de province.
« Mais il est loin d'être stupide, » pensa le jeune homme. « Et la rencontre avec lui n'a rien à voir avec la chance. Le cas était vraiment dans un très bon jour. »«
Aller à New York, » récapitula John, « trouver ce gars, Aaron Dipno, ne pas y mêler son pote, convaincre Dipno que prendre soin de cette rose dans son terrain vague est quasiment la chose la plus importante au monde. »
« Vous pouvez même retirer le quasiment, » corrigea Eddie.
John opina comme si ça allait de soi. Il s'empara du papier avec le castor en tête et le fourra dans son énorme portefeuille. Lui remettre la promesse de vente avait été l'une des choses les plus difficiles qu'Eddie ait eu à faire depuis qu'il avait passé la porte dérobée et s'était retrouvé propulsé à East Stoneham. Et il était à deux doigts de l'arracher à Cullum avant qu'elle disparaisse dans le vieux Lord Buxton du vieil homme. Il comprenait soudain beaucoup mieux ce qu'avait dû ressentir Calvin Tower.
« Parce que vous êtes propriétaire du terrain vague, vous l'êtes aussi de la rose, les gars, » conclut John.
« C'est la Ted Corporation qui en est propriétaire, » rectifia Eddie. « Corporation dont vous êtes sur le point de devenir vice-président exécutif. »
John Cullum n'eut pas l'air impressionné par son nouveau titre putatif.
« Dipno est censé rédiger les articles pour la fusion et s'assurer que la tête est bien légale. Ensuite, on ira voir ce Moses pour être sûr que lui monte à bord. C'est ça qui risque d'être coton. Coton !» Mais on va faire tout notre possible.
Mettez-vous donc la croix de tantine autour du cou, suggéra Roland. Et quand vous rencontrerez Cy Carver, montrez-la lui. Vous aurez sans doute du mal à le convaincre que vous êtes du bon droit, mais vous devez d'abord souffler dessus, comme ça.
Sur la route du retour de Bridgestone, Roland avait demandé à Eddie s'il lui venait à l'esprit un secret. Dérisoire ou important, peu importait, que Susanna et son parrain auraient pu partager autrefois. Et il s'était trouvé qu'Eddie en avait un à l'esprit, et il fut sidéré d'entendre Susanna le prononcer depuis la croix posée sur la table en pin de Dick Beckhart.
« On a enterré Pimsy sous le pommier pour qu'il puisse regarder les bourgeons tomber au printemps. »
fit la voix de la jeune femme.
« Et Pop Mose m'a dit d'arrêter de pleurer, parce que Dieu pense que si on pleure trop longtemps un animal... »
Là, les mots s'évanouirent. D'abord en un murmure, puis ce fut le silence. Mais Eddie se rappelait la suite et la répéta à haute voix.
que pleurer un animal trop longtemps est un péché. Elle disait que Pop Mose lui avait dit qu'elle pouvait se rendre de temps à autre sur la tombe de Pimsy et lui murmurer « Sois heureux au paradis », mais qu'elle ne devait le raconter à personne, car les prêcheurs n'aiment pas beaucoup l'idée que les animaux domestiques vont au paradis. Et elle a gardé le secret. Elle ne me l'a raconté qu'à moi.
Se remémorant sans doute cette confidence d'après l'amour, dans le noir, Eddie eut un sourire douloureux. John Cullum regarda la croix, puis leva vers Roland des yeux écarquillés.
« Qu'est-ce que c'est? Une sorte de magnétophone, c'est ça? C'est ça, pas vrai? »
« C'est un sigleux, » fit Roland sans perdre patience. « Il pourra vous être utile, avec ce type Carver, si jamais il joue au con, comme dirait Eddie. »
Le pistolero eut un petit sourire. Il aimait bien cette expression « jouer au con ». Il la comprenait.
« Mettez-la. »
Mais Cullum n'en fit rien. Du moins, pas immédiatement. Pour la première fois depuis qu'ils avaient croisé le chemin du vieux bonhomme, y compris durant toute la fusillade à l'épicerie générale, il eut l'air réellement déstabilisé.
« Est-ce que c'est de la magie ?»
demanda-t-il. Roland haussa les épaules avec impatience, comme pour signifier à John que ce terme n'avait aucun sens dans ce contexte, et se contenta de répéter
« Mettez-la !»
Avec précaution, comme s'il craignait que la croix de Tantine Talita ne se mette à rougeoyer à tout moment et ne le brûle gravement, John Cullum s'exécuta. Il baissa la tête pour l'observer. Et l'espace d'un instant, son long visage de gars du Nord s'orna d'un double menton comique de patricien, puis la glissa sous sa chemise.
« Boudiou !»
répéta-t-il très doucement. 6. Conscient qu'il prononçait ces paroles qu'on avait un jour prononcées pour lui, Edidine ordonna
« Récite le reste de ta leçon, John !» dit Stoneham, et sois sincère. »
Quand John Cullum s'était levé ce matin-là, il n'était qu'un simple homme à tout faire, un homme de l'ombre et de l'anonymat. Et il se coucherait ce soir-là avec l'éventualité de devenir l'un des personnages les plus importants de ce monde, un véritable prince de la Terre. S'il redoutait cette perspective, il n'en montra rien. Peut-être ne la mesurait-il pas encore tout à fait. Mais Eddie était certain du contraire. C'était là l'homme que le cas avait placé sur leur route, et il était à la fois gâche et courageux. Si à cet instant Eddie avait été Walter, ou Flag, comme Walter aimait parfois à se faire appeler, il aurait tremblé à n'en pas douter.
« Eh bien, » fit John, « vous vous en battez bien le coquillard de savoir qui dirige cette compagnie, mais vous voulez que la tête absorbe Holmes, parce qu'à partir de maintenant, ça n'a plus rien à voir avec le dentifrice et les couronnes, même si la couverture tient encore un petit moment. »
« Et qu'est-ce que... »
Eddie s'interrompit. John brandit sa main noueuse pour le faire taire. Eddie essaya d'imaginer une calculatrice Texas Instruments dans cette main-là et se rendit compte que ça ne lui posait aucun problème.
Bizarre. « Laisse-moi une seconde, jeune homme, et je vais te le dire. »
Eddie se recula dans sa chaise, mimant le geste de refermer une fermeture éclair sur ses lèvres.
« Veillez à ce que la rose soit à l'abri. Première priorité. » Ensuite, protéger l'écrivain. Deuxième priorité. Mais au-delà de ça, avec ce gars d'hypno et cet autre gars Carver, va falloir qu'on monte l'une des corporations les plus puissantes au monde. On fera dans l'immobilier, on travaillera avec...
Il ressortit le vieux carnet vert, le consulta rapidement, puis le rangea.
On travaillera avec des développeurs informatiques.
Peu importe ce que c'est, parce que c'est eux qui lanceront la prochaine vague technologique.
Et il y a trois mots qu'on doit absolument se rappeler.
Il les compta sur ses doigts.
Microsoft, Micropuce, Intel. Et peu importe la taille qu'on atteint et à quelle vitesse, notre véritable boulot se résume à ces trois priorités. Protéger la rose, protéger Stephen King et tenter de pigeonner deux autres compagnies chaque fois qu'on le pourra. La première s'appelle Sombra. L'autre... Il hésita un quart de seconde. L'autre, c'est North Central Positronics. Sombra fait surtout dans le dur, d'après vous autres. Positronics, eh bien, ils sont dans la science et les gadgets. Même pour moi, ça paraît évident. Si Sombra veut un lopin de terre, la tête essaie de l'avoir en premier. Si North Central lorgne sur un brevet, on essaie de le déposer avant eux, ou du moins de les empêcher de le déposer, voire de le laisser à un tiers si on doit en arriver là. Eddie hochait la tête, approuvant tout le discours. Il n'avait pas suggéré de lui-même cette alternative. Le vieux bonhomme l'avait deviné tout seul. « Nous voilà, les trois mousquetaires édentés. » Les vieux schnocks de l'apocalypse, et on est censé empêcher ces deux géants d'arriver à leur fin, par tous les moyens, loyaux ou déloyaux. Les coups sous la ceinture sont les bienvenus. John sourit de toutes ses dents. « J'ai jamais été à Harvard. »« Harvard. » Mais pour ce qui est de filer un coup de genou bien placé, je crois que je m'en sortirai aussi bien qu'un autre.
« Bien. » approuva Roland. Puis en se levant, « Bon, je pense qu'il est temps pour nous de... »
Eddie l'arrêta d'un geste de la main. Oui, lui aussi voulait rejoindre Susanna et Jake. Il avait hâte de serrer son amour dans ses bras et de lui recouvrir le visage de baisers. Il lui semblait qu'il s'était écoulé des années depuis qu'il l'avait vu pour la dernière fois sur la route de l'Est, à Calabrinsturgis. Pourtant, il ne pouvait pas en rester là aussi facilement que Roland, qui avait passé sa vie à se faire obéir, et pour qui voir un illustre inconnu prêter allégeance et risquer sa vie était devenu une sorte de routine. Ce qu'Eddie voyait, de l'autre côté de la table en pin de Dick Beckhart, ce n'était pas un instrument comme un autre, mais un type de la campagne. Indépendant, volontaire et vif comme une flèche, mais vraiment trop vieux pour ce qu'il lui demandait de faire. Et puisqu'on parlait d'âge, que dire d'Aaron Dipno, le freluquet de la chimio ?
« Mon ami veut se remettre en chemin et moi aussi, » expliqua Eddie. « On en a encore beaucoup devant nous. »«
Je le sais, c'est écrit sur ta tête, fiston, comme une cicatrice. »
Eddie était fasciné par cette idée que le devoir et le cas pouvaient laisser une trace physique, une marque qui pour certains pouvait ressembler à une décoration et pour d'autres à une cicatrice qui défigure. Dehors, le tonnerre éclata et un éclair zébra le ciel.
« Mais pourquoi vous feriez tout ça ?» demanda Eddie. « Il faut que je sache. » Pourquoi vous vous donneriez tout ce mal pour deux types que vous venez à peine de rencontrer ?
John considéra la question. Il toucha la croix qu'il porterait désormais jusqu'à sa mort en 1989. La croix, donnée à Roland par une vieille femme dans une ville oubliée. Il la toucherait exactement de la même manière dans les années à venir, au moment de prendre une grande décision. La plus grande d'entre elles consisterait sans doute à rompre tout accord entre la tête et IBM, une compagnie de plus en plus désireuse de faire affaire avec North Central Positronics, ou de préparer une action à couvert, balancer des bombes incendiaires dans les locaux de l'entreprise Sombra à New Delhi, par exemple, l'année qui précéderait sa mort. La croix devait parler une fois à Moses Carver, puis elle ne parlerait plus jamais en présence de Cullum, même en soufflant dessus de toutes ses forces. Mais parfois, alors qu'il s'endormirait la main serrée autour du petit objet, il lui arriverait de penser
« C'est un sigleux. C'est un sigleux très cher, un signe venu d'un autre monde. »
le seul regret qu'il éprouverait vers la fin. Outre les ruses et les coups bas qui s'étaient révélés nécessaires et qui avaient coûté plus d'une vie humaine, ce serait de ne jamais avoir eu l'occasion de visiter ce monde de l'autre côté qu'il avait entreaperçu un soir d'orage sur le chemin du dos de la tortue dans la ville de Lovell. De temps à autre, le sigleux de Roland lui enverrait le rêve d'un champ recouvert de roses et d'une tour d'un noir de suie. Parfois, il serait hanté par des visions terribles, celles de deux yeux cramoisis qui flottaient dans le vide, scrutant sans fin l'horizon. Parfois, en rêve, il croirait entendre le son d'un corps. De ces rêves-là, les derniers, il se réveillerait en larmes, des larmes de nostalgie, de deuil et d'amour. Il se réveillerait la main serrée autour de la croix, récitant tout bas « Je renie Discordia et je ne regrette rien. J'ai craché dans les yeux sans corps du roi cramoisi et je m'en réjouis. C'est de mon plein gré que j'ai partagé le sort du catète du pistolero et que j'ai servi le blanc. Et jamais je n'ai douté de ce choix. Pourtant, il aurait donné cher pour faire un tour, ne serait-ce qu'une fois dans cet autre pays. Celui de l'autre côté de la porte. Pour l'heure, il répondit au jeune homme, « Tout ce que vous voulez, vous autres, c'est bien. Je ne pourrai pas le dire plus clairement, je vous crois. » Il hésita un instant. « Je crois en vous. Ce que je vois dans vos yeux est sincère. » Eddie crut qu'il avait terminé, et c'est alors que Cullum lui adressa un grand sourire de gosse. « Et il me semble bien que ce que vous me donnez, c'est les clés d'un méga engin. Engin qui refuserait d'allumer le moteur juste pour voir l'effet que ça fait. »«
Vous n'avez pas peur ?» demanda Roland.
Cullum réfléchit une seconde puis hocha la tête.
« Pour sûr que j'ai peur. »«
Bien, »
fit simplement Roland. 7. C'est sous un ciel noir et bouillonnant qu'ils retournèrent sur le chemin du dos de la tortue, dans la voiture de Cullum. La haute saison avait beau battre son plein, et la plupart des bungalows au bord du lac Kezar avaient beau être pour la plupart occupés, ils ne croisèrent pas un seul véhicule, ni dans un sens, ni dans l'autre. Sur le lac, tous les bateaux s'étaient réfugiés à l'abri depuis longtemps.
« Je vous avais dit que j'avais autre chose pour vous, »
fit John en se rendant à l'arrière de son camion, où une cantine métallique verrouillée était calée contre la cabine. Le vent avait fini par se lever. Il faisait volter autour de sa tête des mèches de fins cheveux blancs. Il composa un code, fit sauter un cadenas et renversa le couvercle de la cantine. Il en sortit deux sacs poussiéreux que les vagabonds reconnurent immédiatement. L'un d'eux avait presque l'air neuf à côté de l'autre, qui avait revêtu cette non-couleur usée de la poussière du désert et que fermait un long lacet de cuir brut.
« Nogina !»
s'exclama Eddie tellement ravi et tellement abasourdi qu'il en cria presque de joie.
« Comment diable est-ce que vous avez ?»
John leur adressa un sourire qui augurait bien de son avenir, comme filou de première. Perplexe en apparence, rusé en profondeur.
Bonne surprise, pas vrai? C'est ce que je me suis dit moi-même. Je suis retourné jeter un œil à la boutique de Chip, ce qu'il en reste, on va dire, quand c'était encore la confusion générale. Il y avait des gens qui couraient dans tous les sens, et puis il fallait recouvrir les cadavres, et puis disposer la bande jaune tout autour du bâtiment. Et puis quelqu'un a posé ces sacs-là sur le côté, et ils avaient l'air de se sentir tellement seuls que... »
Il haussa une épaule osseuse.
« Que je les ai embarqués. »
Ça devait être pendant qu'on rendait visite à Calvin Tower et à Ron Dipno dans leur cabane de location, en déduisit Eddie. « Après que vous êtes rentré chez vous, soi-disant pour faire vos bagages et partir pour le Vermont, je me trompe ?»
Tout en parlant, il caressait le flanc de son sac. Cette douceur au toucher, il la connaissait par cœur. N'avait-il pas abattu lui-même le cerf dont la peau avait servi à le confectionner? N'avait-il pas gratté les poils avec le couteau de Roland et cousu lui-même la poche avec l'aide de Susanna? C'était peu après que le grand robot Chardic avait failli étriper le jeune homme, quelque part au siècle dernier, semblait-il.
« Pieur !» fit le vieux bonhomme, et lorsque son sourire s'adoucit encore, les derniers doutes dédiés à son sujet s'envolèrent en fumée. Ils avaient trouvé l'homme qu'il fallait dans ce monde-ci. Il disait vrai. Et merci beaucoup, beaucoup à Gan.
Enfile ton arme, Eddie,
ordonna Roland en lui tendant le vieux revolver à crosse de bois de Santal.
Mon arme. Maintenant, il l'appelle mon arme.
Eddie eut comme un petit frisson.
Je croyais qu'on allait rejoindre Susanna et Jack.
Mais il n'en prit pas moins l'arme et se la fixa volontiers à la ceinture. Roland hocha la tête.
Mais je crois bien qu'on a des comptes à régler avant ça, avec ceux qui ont tué Callahan et essayé de tuer Jake.
L'expression de son visage ne changea pas, mais autant Eddie Dean que Jen Cullum sentirent un grand froid les envahir. L'espace d'une seconde, il leur fut presque impossible de regarder le pistolero en face. Et c'est ainsi que fut prononcé, bien qu'ils n'en fussent pas informés, et c'était là une miséricorde qu'ils étaient bien loin de mériter. La peine de mort à l'encontre de Flaherty, de Lamla le Taïn et de leur cathète.
8.
Oh mon Dieu!
Essaya de prononcer Eddie, mais aucun son ne sortit. Il avait vu une grande lueur devant eux, alors qu'ils remontaient le chemin du dos de la tortue vers le nord, se guidant en suivant l'unique feu arrière de la fourgonnette de Cullum. Il avait d'abord cru qu'il s'agissait des projecteurs à l'entrée de la propriété d'un magnat du pétrole quelconque. Mais la lueur continuait de croître. Éclat bleu doré sur leur gauche, à l'endroit où la corniche descendait en pente douce vers le lac. À mesure qu'ils approchaient de la source lumineuse, le fourgon de Cullum glissant à présent au ralenti, Eddie se retrouva bouche bée, le bras tendu vers un disque brillant qui s'était détaché et avancé vers eux en changeant de couleur, passant du bleu au doré puis au rouge, et du rouge au doré pour redevenir bleu. En son centre apparaissait ce qui ressemblait à un insecte doté de 4 ailes. Et alors qu'il montait en flèche au-dessus du véhicule pour gagner la profondeur des bois, sur le côté est de la route, il tourna la tête vers eux et Eddie constata que l'insecte avait un visage humain.
« Qu'est-ce que... Mon Dieu, Roland, qu'est-ce que... »
« Un Taïn, »
se contenta de commenter Roland. Dans la lumière croissante, il avait un air calme et fatigué. D'autres cercles brillants se détachèrent du cœur et se mirent à fuser en une danse splendide, comme des comètes. Eddie aperçut des mouches, de minuscules colibris ornés de pierres précieuses, et ce qui ressemblait à des grenouilles ailées. Et au-delà... Le feu arrière du camion de Cullum clignota vivement, mais Eddie était tellement absorbé par le spectacle qu'il aurait embouti le véhicule si Roland ne l'avait pas rappelé à la réalité. Eddie gara la galaxie sans même prendre la peine de freiner ou d'éteindre le moteur. Puis il sortit de voiture et se dirigea vers l'allée bitumée qui descendait le long des bois. Il avançait dans la lumière délicate, les yeux écarquillés, ébahis. Cullum le rejoignit et resta debout, là, à regarder en bas. L'allée était flanquée de 2 panneaux, celui à gauche indiquait « Karakiri » et celui de droite « 19 ».
« C'est quelque chose, pas vrai ?»
dit doucement Cullum.
« Ça, tu l'as dit !»
essaya d'articuler Eddie, mais une fois encore, aucun son ne voulut sortir et il dut se contenter d'un souffle rauque. La plus grande partie de la lumière provenait de la forêt, à l'est de la route, et à gauche de l'allée d'entrée de Karakiri. À cet endroit, les arbres, en majorité des pins,
des épicéas et des bouleaux inclinés par une tempête de neige à la fin de l'hiver, s'étalaient à perte de vue. Et des centaines de silhouettes déambulaient là, avec solennité, comme dans une salle de bal de campagne, traînant leurs pieds nus sur le tapis des feuilles. Certains étaient à l'évidence des enfants de Roderick, et aussi crânés que Chevin de Shaven. Leur peau était recouverte de plaies dues aux radiations, et peu d'entre eux avaient encore des cheveux. Mais la lumière dans laquelle ils évoluaient les nimbait d'une beauté presque trop éblouissante pour qu'on y pose le regard. Eddie vit une femme borgne portant ce qui ressemblait à un enfant mort. Elle regarda le jeune homme avec une expression de grande tristesse et ses lèvres remuèrent, mais Eddie n'entendit rien. Il leva le poing à son front et fléchit le genou. Puis il se toucha le coin de l'œil et pointa le doigt vers elle.
« Je vous vois »,
signifiait son geste. Du moins, l'espérait-il.
« Je vous vois très bien. »
La femme portant l'enfant mort ou endormi lui rendit son geste, puis disparut hors de sa vue. Au-dessus de leur tête, le tonnerre claqua vivement et des éclairs transpercèrent la lueur en son centre. Un pin centenaire, dont le tronc vigoureux était ceint de mousse, fut frappé par la foudre et s'ouvrit en deux, de haut en bas. Les deux pans de tronc basculèrent de part et d'autre, et Eddie vit que le cœur de l'arbre était en feu. Et une gigantesque gerbe d'étincelles, pas des flammes, mais comme un souffle éthéré qui rappelait les feux follets, monta en tourbillonnant jusqu'à l'ourlet ventru des nuages. Au cœur de ces étincelles, Eddie vit des corps minuscules en train de danser, et l'espace d'un instant, il ne put respirer. C'était comme s'il observait une escadrille entière de fées clochettes qui apparaissaient et disparaissaient.
« Regarde-moi ça, » fit John avec déférence. « Des entrants. Boudiou, il y en a des centaines, si seulement mon ami Donnie pouvait voir ça. »
Eddie lui donna raison. Il y avait probablement des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui allaient et venaient dans les bois en contrebas, traversant la lumière, s'évanouissant, réapparaissant. Tandis qu'il les contemplait, il sentit une goutte froide lui couler sur la nuque, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Le vent s'engouffra en rafale à travers les arbres, soulevant une nouvelle gerbe d'étincelles remplie de ces créatures célestes et transformant l'arbre éventré en une paire de torches vives.
« Viens, » fit Roland en saisissant Eddie par le bras. « Il va se mettre à pleuvoir des cordes et tout va s'éteindre comme une chandelle. Et si on est encore de ce côté à ce moment-là, on risque de rester coincé ici.
« Où est-ce que... »
commença Eddie, puis il vit. Au bout de l'allée, là où le couvert des arbres débouchait sur un éboulis de rochers descendant jusqu'au lac, se trouvait le cœur de la lueur, pour l'instant trop éclatante pour leurs pupilles. Roland traîna le jeune homme dans cette direction. John Cullum demeura comme hypnotisé par les entrants pendant quelques secondes, puis tenta de les suivre.
« Non !» cria Roland par-dessus son épaule.
À présent, la pluie tombait drue. Les gouttes glacées qui venaient s'écraser sur sa peau étaient de la taille d'une pièce de monnaie.
« Vous avez affaire, John. Adieu, et bon vent à vous. »«
Et à vous aussi, les gars !» répondit John.
Il s'immobilisa et agita la main dans leur direction. Un éclair trancha les nuages à la manière d'une lame, illuminant brièvement son visage d'un bleu éclatant et d'un noir profond.
« À vous aussi !»«
Eddie, nous allons courir droit dans le cœur de cette lumière, » ordonna Roland. « Ce n'est pas une porte des grands anciens, mais une porte du prime. C'est de la magie pure. Tu intuites ?
Elle nous emmènera là où nous voudrons, si nous nous concentrons suffisamment. »«
Où est-ce que... on n'a pas le temps. Jake m'a dit où, à travers le Shining. Contente-toi de me tenir la main et de ne penser à rien. » « Je sais où nous emmener. »
Eddie voulut lui demander s'il en était absolument certain, mais il n'avait plus le temps. Roland se mit à courir. Eddie l'imita. Ils descendirent la pente à bonne vitesse et débouchèrent en pleine lumière. Eddie en sentit le souffle sur sa peau, comme exhalé par un million de petites bouches. Leurs bottes faisaient crisser l'épais tapis de feuillage. À sa droite se dressait l'arbre en flammes. Il percevait l'odeur de la sève et le chuintement de l'écorce en train de se consumer. Ils se rapprochèrent du cœur lumineux. Tout d'abord, Eddie vit le lac Khézar à travers, puis il sentit une force phénoménale le tirer sous la pluie battante et l'aspirer comme un aimant à l'intérieur de cet éclat aveuglant rempli de murmures. L'espace d'un instant, il entrevit la forme d'une porte. Alors il s'agrippa de plus belle à la main de Roland et ferma les yeux. Le sol recouvert de feuilles s'évanouit sous ses pieds, et ils s'envolèrent.